Depuis la nuit des temps, on parle de Michel-Ange. Tout ce qui est art dans notre civilisation est le fait des hommes et pas des femmes.
Je suis gloutonne comme Colette, souillon comme Marie Curie, collabo comme Anne de Bretagne. Je ne suis pas un homme comme Jeanne d'Arc, mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas les femmes.
Fréquence féministe.
Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas les femmes.
Et oui, c'est déjà la dernière de Fréquence féministe. Faut qu'on en profite parce que c'est la dernière fois qu'on vous le dira. Fréquence féministe. C'était notre émission quotidienne qui couvrait l'Amiens Europe Féministe Future Festival qui se déroulait à la Maison de la Culture d'Amiens et puis également à la Comédie de Picardie.
Ouais, un peu partout dans les structures culturelles d'Amiens.
Il y avait le Totem aussi, ouais.
Ouais, il y avait Totem, il y avait donc Maison de la Culture, le Cirque Jules Verne aussi.
Oui.
Avec Made in Finland, on avait écouté hier la chronique de Margot.
Exactement. Vous l'avez entendu, je suis en studio avec Colline et Léo. Comment ça va? Pas trop triste de cette dernière émission? C'est passé vite.
Bah Léo, tu veux commencer?
Oui, au départ, j'avoue que c'était un petit peu fatigant. Mais à force, finalement, je me suis quand même un petit peu attaché à cette édition. En fait, c'est surtout là, depuis les derniers jours où j'ai pu assister à des spectacles dont je vais vous parler tout à l'heure, Nage Libre.
C'est un spectacle de qui, Nage Libre?
Alors, attends, parce que tu fais le running gag, mais je l'ai coupé hier.
Ah mince.
Au montage.
Ok.
Mais sachez que Léo a galéré à dire le nom de la personne qui a mis en scène Nage Libre. C'est très drôle.
Je n'y arrive toujours pas.
Bah, bonne chance, parce que c'est ta chronique. Juste avant, on s'écoute une interview, puisqu'on est allé à la rencontre de Sacha Beida, qui est donc membre du collectif Beyond the Post-Soviet. Et on a pu parler avec lui, échanger de leur travail, mais aussi du livre qui est le fruit d'un travail de plusieurs années et qui rassemble plusieurs travaux de différentes personnes au sein du collectif. Et je vous laisse écouter l'échange. Nous sommes avec Sacha Beidel à la Maison de la Culture d'Amiens. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie du collectif Beyond the Post-Soviet. C'est un collectif qui a la particularité de mélanger des personnes qui viennent d'horizons différents. Vous êtes commissaire d'exposition. Qu'est-ce que c'est, votre métier?
Alors, c'est un métier dans le domaine des arts visuels, en tout cas, qui consiste surtout à travailler avec des artistes autour d'expositions, de différents programmes, qui peut également comprendre des performances, des projections, mais aussi ça peut vouloir dire travailler un peu le discours, la réflexion critique. Ça peut vouloir dire aussi écrire. En fait, en quelque sorte, commissaire d'exposition, c'est un métier assez nouveau, tout en sachant que quand même, on travaille dans un milieu qui est maintenant un milieu bien professionnalisé. Donc, il y a aussi, bien sûr, des attentes du milieu, voilà, par rapport à toutes sortes d'événements qu'on nous invite à produire, à concevoir. Avec ma collègue Julia Fisch, on a été à l'origine de ce collectif. Julia Fisch, à l'époque, faisait ses études en Suisse et elle écrivait sur la mémoire et les monuments dans les pays socialistes. Et un jour, elle a juste fait un post Facebook, à l'époque c'était Facebook, beaucoup, où elle disait « Oui, est-ce que quelqu'un connaît des gens qui travaillent sur des sujets similaires ou s'intéressent à ces sujets-là » Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se parler, à s'appeler. Et on a réalisé aussi que nous deux, étant originaires des pays socialistes, post-socialistes, d'originaires, enfin, entre autres slaves, qu'on avait beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses aussi à comprendre ensemble en vivant dans des pays qui ne sont pas nos pays de naissance. Petit à petit, voilà, on a compris qu'on vit une situation diasporique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce qu'on peut réunir des gens avec qui on va aborder ces sujets ensemble? En sachant que, enfin, puisque ce qui nous intéresse, c'est pas un seul pays, c'est pas une seule culture, mais en fait les intersections, les rencontres, les mélanges, les tensions aussi, on a compris tout de suite qu'il faut que ça, qu'on soit plusieurs. Donc c'est là que l'idée du collectif est née, dans l'idée aussi, bien sûr, d'avoir un regard critique sur l'histoire et sur le présent. c'est-à-dire comment les pays socialistes se sont construits, quelle était leur idéologie, comment est-ce qu'elle a évolué, qu'est-ce que ça donnait au final, ça donnait en quelque sorte un échec, pourquoi, comment est-ce qu'on peut le revisiter, comment est-ce qu'on peut apprendre aussi peut-être certaines choses, et enfin aussi comment tout ça se traduit dans le présent, où tous ces héritages-là, ils n'ont pas disparu, mais au contraire, ils continuent à influencer de façon pas constante, très forte, notre présent.
Et en parlant de cette influence entre passé et présent, la Maison de la Culture d'Amiens fait le lien un peu entre ce passé et ce présent post-socialiste par son architecture et son héritage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette construction qui s'est faite sur ce bâtiment ?
Nous avons postulé pour un appel à projet fait par le Centre National des Arts Plastiques ou le ministère de la Culture, peut-être le Centre National des Arts Plastiques, qui copilote un programme qui s'appelle Cura. Donc c'était un programme lancé pendant le Covid pour mettre en lien les commissaires d'exposition des arts visuels et les scènes nationales, dans l'idée de renforcer la présence des arts visuels dans les scènes nationales. Et donc la Maison de la Culture est l'une des scènes nationales dans laquelle nous avons eu la chance d'intervenir. On a formulé un peu le projet qui déjà contenait en fait certaines pistes de réflexion. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ce lieu? Quelle est son histoire? Où on arrive ici? Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Quel fil d'histoire on va dérouler ici? Et ce qui nous a surtout intéressé, c'est l'histoire des maisons de la culture en tant que modèle en France, ses origines qui viennent des pays socialistes, qui sont liées aux pays socialistes, son bâtiment, son architecture, les usages de ce bâtiment, etc. etc. Et donc c'est là que ce lien il s'est fait, à la fois entre le présent et le passé, ou les passés multiples, et aussi un peu un lien semi-imaginaire, où du coup on a essayé de mettre en parallèle les deux modèles, les maisons de la culture en France, de ce que ça représentait, de ce que ça continue à représenter aujourd'hui. On va dire que je pense que c'est une perception plutôt positive, ou au moins neutre, que voilà, ce sont des lieux de la culture qui diffusent la culture, mais il n'y a pas d'enjeu idéologique là-dedans. Alors que donc André Malraux, quand il a eu cette idée, très certainement il s'est appuyé sur le modèle des maisons de la culture dans les pays socialistes, du début du XXe siècle, où aussi, à la base, ça a été pensé comme un lieu ouvert au public pour diffuser la culture, pour accueillir les publics, pour également créer un lieu de divertissement et de rencontre des gens. Sauf que, voilà, avec le temps, ça a un peu dérivé. Et finalement, dans beaucoup de cas, ces lieux sont devenus des lieux de diffusion d'une idéologie. Et donc, il y a une perception complètement différente. Très négatif souvent, ce qui fait que dans certains pays, comme en Ukraine par exemple, les maisons de la culture ou des formes d'héritage de cette époque-là ont été laissées à l'abandon ou ne sont pas forcément valorisées. Donc voilà, on voulait partir de cette tension-là, de cette à la fois similitude et différence, pour développer un programme avec des expositions surtout. C'était un peu la aussi, ça faisait partie de la demande, on va dire, mais aussi essayer d'organiser des performances, des discussions qui allaient élargir justement ces perspectives sur ces deux histoires.
Vous êtes toutes et tous d'horizons différents et vous avez une création qui n'est pas hiérarchique. Comment ça se passe en fait, vos projets, comment ils se construisent?
Oui, le collectif est non hiérarchique dans le sens que on essaye au maximum de discuter des choix qu'on fait. Je pense que ce qui est très important pour nous, c'est que c'est pas forcément qu'on soit tous complètement d'accord, mais que s'il y a un choix qui est pris, que ça convient quand même à tout le monde. En même temps, ce qui est important, on n'est pas obligé d'être complètement d'accord sur absolument tout. Il y a tout naturellement, voilà, il y a des groupes de travail qui se construisent autour d'un projet. Par exemple, comme ici, des personnes qui ont été intéressées à travailler sur ce projet. Et puis, à l'intérieur de ce groupe, on se divise les tâches. Tout en sachant que voilà, nous-mêmes, il y a des artistes dans le collectif, mais l'objectif n'était pas de présenter notre travail ou le travail des artistes du collectif, mais quand même d'engager des collaborations, des dialogues avec des artistes invités. on aime, je pense, en tant que collectif, d'avoir des liens qui soient durables avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et ça nous tient au cœur, en fait, de cultiver ces amitiés-là.
Et ces amitiés, elles sont aussi, pas seulement entre personnes, mais entre institutions. Ce n'est pas la première fois que vous venez participer à des événements à la Maison de la Culture. Ça fait plusieurs années qu'il y a un partenariat et vous êtes déjà venu au Féministes Futures l'an passé. Mm-hmm. Là, vous revenez. Cette performance, Grimoire of the Lost Unpersoned, c'est une immersion sonore, visuelle, c'est très mystérieux tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Madison Bycroft, qui est une artiste australienne, son travail, il n'a pas forcément de lien avec les géographies qui sont au cœur de notre démarche, mais à la fin, on avait des liens d'affinité intellectuelle et aussi esthétique avec l'artiste. Il y a aussi quelque chose dans sa performance qui va un peu résonner avec le programme qu'on a fait ici, mais voilà, c'est aussi quelqu'un qu'on suit depuis longtemps. Le travail de Madison, ça s'appelle, on peut le traduire, Grimoire de l'Esperluette perdue. Le travail de Madison, il est très polymorphe, il est très dense, il est très chargé, toujours. Il y a un mélange de plein de références intellectuelles, populaires, historiques, spéculative, et donc c'est un peu un cocktail brûlant de tout ça que vous allez, j'espère, voir demain. Il y a aussi une trame narrative, en fait, dans cette performance. C'est une performance qui dure à peu près 3/4 d'heure, une performance solo sur scène avec la vidéo, le son, la chanson. Madison va beaucoup chanter, beaucoup parler aussi, lire. Et on va suivre la quête d'un chevalier qui sera incarné par Madison, un chevalier classique, comme dans une épopée historique, qui part dans une aventure et qui... Bon, je crois que c'est pas très clair pourquoi elle part, mais il est très très convaincu de ce qu'il va faire. C'est une figure très masculine au début de la pièce. Et donc le chevalier va rencontrer des lettres de l'alphabet, des lettres qui vont être complètement délirer. Il y aura pour chaque lettre un univers particulier que le chevalier va traverser, en sachant que Madison s'intéresse beaucoup à l'alphabet comme un système qui ordonne, en fait, des savoirs. Et pourquoi l'esperluette, de laquelle j'ai parlé au début, c'est une lettre qui a été exclue de l'alphabet latin à un moment, je ne sais plus quand, mais ça a été exclu. Et du coup, cette lettre l'intéresse tout de suite. Pourquoi est-ce qu'elle a été exclue ? Et ça devient un symbole assez fort et assez intéressant pour Yael, parce que Yael s'intéresse justement à tout ce qui échappe à des systèmes qui ordonnent, qui catégorisent des savoirs, la pensée, etc., etc. Donc voilà, et à la fin, petit à petit, le chevalier va commencer à se douter aussi de sa propre position. À la fin, tout va être un peu retourné. Donc, également, il y a cette tension dans la queerness, dans la façon d'en parler, entre quelque chose qu'on souhaite affirmer, mais à la fois sans pour autant rester figé. Il y aura même dans la performance un questionnement là-dessus, sur les noms, sur les termes, puisque une fois on donne un nom, comme si on figeait quelque chose, mais en fait la queerness telle qu'elle a été pensée ou telle qu'elle est pensée de façon très ouverte, c'est plutôt justement d'échapper à toutes ces conclusions ou toutes ces déclarations ou noms très fermés. Pour cultiver cette pensée critique chez nous, ce type de performance, ce type d'objets artistiques sont aussi très importants parce que justement, en fait, ça démontre comment les choses fonctionnent, comment les choses sont construites, et ça nous permet de comprendre ces mécanismes et de les appliquer aussi dans la vie.
Dans l'ouvrage qui s'intitule Beyond the Post-Soviet Reader One,
il y a aussi un sous-titre, enfin le titre c'est Héritage déplacé ou Displaced Heritage. C'est un livre qui parle de la question des héritages en français, peut-être, c'est aussi le patrimoine et le matrimoine dans les pays socialistes et post-socialistes, dans des contextes de crise. C'était très important pour nous, puisque très souvent, en fait, les cultures se retrouvent dans le viseur dans des situations de crise, enfin, politiquement parlant, ou bien dans le contexte d'une guerre. Et notre programme touchait également à ces sujets-là par rapport à comment on se place face à un héritage, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on le réactive, comment est-ce qu'on le repense. Et donc c'est un livre qui est un recueil de textes de 6 personnes qui évoquent ces problématiques-là de plusieurs perspectives. Il y a 2 artistes qui ont participé au programme, par exemple, qu'on a développé ici, mais également 4 chercheurs et chercheuses, archéologues, écrivains et écrivaines, qui parlent d'autres cas. Très intéressant.
Ce mélange des disciplines et des savoirs, c'est une force.
J'espère.
Merci beaucoup, Sacha. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour conclure cet échange?
Non, merci. Merci beaucoup. J'espère que vous serez là ce soir.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Si toutefois vous voulez approfondir votre connaissance de Beyond the Post-Soviet, il y a leur Instagram qui s'appelle tout simplement Beyond the Post-Soviet, tout attaché. Et puis leur site internet Beyond the Post-Soviet sans le trait d'union entre post et soviet.org, sur lequel prochainement vous pourrez commander leur livre collectif que Sacha a pu présenter dans cet entretien. Et maintenant, on va passer à la chronique de Léo. Est-ce qu'avant, tu voudrais nous dire quelques mots sur Nage Libre ?
Oui, merci Julien. Donc, comme tu l'as dit, je suis allé voir Nage Libre de Lisa Wormser hier soir à la Comédie de Picardie. C'est un spectacle qui parle à la fois de sport, de mémoire et de résistance. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à être autant touché, même si je vais essayer de ne pas le laisser paraître durant cette chronique. Inspiré du film documentaire Watermarks de Warren Zilberman, la pièce raconte l'histoire de 3 nageuses autrichiennes juives, Rachel, Anna et Esther, du club sportif juif ACOA. Pour vous contextualiser la chose, à Vienne, les Juifs n'étaient pas acceptés dans les autres clubs. Dans les années 1930, elles remportent des médailles, notamment lors des Jeux Olympiques de 1936 de Berlin. Mais avec l'arrivée du régime nazi, leurs titres leur sont confisqués, et pour survivre, elles sont contraintes de fuir l'Autriche. En 1995, 55 ans plus tard, elles retournent à Vienne pour la restitution de leur prix. Je dois avouer que j'étais un peu sceptique avant d'entrer dans la salle, surtout à l'idée que l'humour puisse trouver sa place dans un sujet aussi fort et sensible. Mais très vite, on comprend que ce choix fonctionne parfaitement. Le décor est simple mais très intelligent. Un seul encarrelage qui évoque le fond d'une piscine olympique. On retrouve ces 3 femmes dans un cabaret, comme de vieilles amies qui ne se seraient pas vues depuis des années. Elles évoquent leurs souvenirs, leur jeunesse, leur exil, leur vie d'avant et d'après, avec beaucoup de pudeur, d'humour et surtout une vraie tendresse. C'est comme si leur jeunesse ne les avait jamais quittés, même si leur corps raconte le temps qui passe. Un 4e personnage est aussi très important. Un homme qui joue à la fois un serveur et un conseiller municipal de Vienne. C'est lui qui raconte comment la ville a changé au fil des années, et surtout qui permet de comprendre que, même après la fin du régime nazi, l'antisémitisme n'a pas forcément disparu. Sa présence apporte un regard extérieur, parfois maladroit, mais révélateur. Je dois aussi dire que je vais assez peu au théâtre et que la radio m'ouvre vraiment à de nouveaux univers culturels. Et là, clairement, c'est un pari réussi, j'étais embarqué du début jusqu'à la fin. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que le spectacle ne parle pas seulement du passé. Même si le nazisme n'existe plus aujourd'hui, l'antisémitisme, lui, demeure encore. Et cette pièce rappelle à quel point il est absurde de dénigrer quelqu'un pour sa religion, sa couleur de peau ou ses origines. Nage Libre, c'est aussi un rappel fort que nous sommes tous égaux et que le sport peut être aussi un moyen d'unir, de résister et de rassembler. La pièce évoque d'ailleurs plusieurs figures historiques réelles, notamment Matthias Sindelar, surnommé le Mozart du football. C'est un joueur autrichien qui refusa de se soumettre à l'Allemagne nazie lors d'un match symbolique en 1939, avant d'être retrouvé mort quelques mois plus tard. Des destins comme le sien rappellent que le sport peut aussi être un acte politique et de courage. Et sans tout vous raconter pour vous laisser la surprise, le spectacle intègre aussi des images d'archives et des moments historiques authentiques, ce qui renforce encore le côté émotionnel de la pièce. En résumé, Nage Libre, c'est un spectacle fort, humain, sensible, qui parle de mémoire sans être lourd et qui donne envie de réfléchir autant que d'espérer. Donc franchement, je vous conseille d'y aller.
Merci beaucoup Léo pour cette chronique, c'était très très intéressant de découvrir ce spectacle qui est encore d'actualité aujourd'hui, enfin qui résonne beaucoup avec le monde dans lequel on est aujourd'hui. Avant de se quitter, on s'écoute notre dernière capsule littéraire de la semaine de Femmes Solidaires.
Alors, donc, je suis en présence de Martine Tekaya. Bonjour à vous. Et de quelle association faites-vous partie ? Alors bonjour, je suis présidente de l'association Femmes Solidaires de la Somme.
Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un livre autour du festival, donc autour du thème du festival, pardon. Est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller ou à conseiller aux auditeurs, auditrices ?
Voilà, alors dans le cadre du salon des livres féministes, qui s'appelle le salon Délivré, que nous avons organisé en collaboration avec la Maison de la Culture, je vais vous parler du livre « Pourquoi les femmes restent » de Mathilde Barbier.
Alors justement, de quoi ça parle ce livre ?
Alors Mathilde, il faut savoir que Mathilde, elle a écrit ce livre d'abord pour que son fils sache, connaisse l'histoire, parce que l'auteur des violences est décédé. Et donc elle voulait que son fils ait un écrit de ce qui s'était passé comment son père avait ressenti les choses. Donc ce livre a la particularité, c'est que les deux parlent. Elle écrit ce qu'elle a subi, et elle se met à la place de l'auteur des violences et pourquoi il a commis ces violences et dans quel cadre il les a commis. C'est ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a les deux parties qui parlent. Donc Mathilde, elle raconte comment, voilà, étudiante, elle travaillait dans un bar le soir. Elle a connu donc cet homme et comment au fil du temps, elle est tombée sous son emprise. Et voilà comment elle a commencé à vivre avec lui. Et elle n'a subi que des violences psychologiques. Donc, comme beaucoup de femmes, violences psychologiques, on ne s'en rend pas compte, on trouve ça normal. Ouais, tu ne sais pas faire grand-chose, oui, tu es bonne à rien, mais tu ne te rends pas compte. Regarde comme c'est sale par terre, voilà. Et les violences ont empiré du jour où elle a attendu son bébé, ce qui est souvent le cas aussi, et une fois que l'enfant a été né. Donc, les violences ont empiré jusqu'au jour où elle s'est dit, ce n'est pas possible, pour mon fils, ça ne peut pas continuer, et où elle est partie. Elle est partie, mais elle est revenue. Parce que partir quand on ne travaille pas, quand on n'a pas d'hébergement, se retrouver chez ses parents, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc elle est revenue. Pendant un certain temps, les choses se sont bien passées. Et puis les violences psychologiques sont revenues. Et son compagnon a commencé à créer des formes de violence sur son fils. C'est-à-dire que le soir, par exemple, il s'enfermait dans la chambre du petit garçon qui avait quelques mois à l'époque. Et il faisait exprès de faire beaucoup de bruit pour empêcher l'enfant de dormir. Donc à partir de là, une deuxième fois, elle s'est dit... C'est plus possible et là, elle est partie définitivement. Mais elle explique dans son livre, en effet, pourquoi les femmes ne partent pas si facilement que ça. Voilà, c'est difficile. D'abord parce qu'il faut se rendre compte des violences, il faut les comprendre. Et puis, il faut pouvoir, derrière, partir avec ses enfants, trouver un logement, trouver voilà, tout un système qui permette de se refaire et de guérir et de revivre à nouveau correctement. Voilà, donc maintenant, c'est le cas. Elle a écrit son livre, elle est remariée. Voilà, ça se passe très bien avec son petit garçon. Et c'est vraiment une histoire super que l'histoire de Mathilde.
Est-ce que vous auriez justement un passage marquant de tête ou de mémoire à nous raconter ?
Je me souviens de ce passage où en effet, elle est couchée, elle dort dans le salon parce que c'est un tout petit appartement, donc elle dort dans le salon. Elle dort avec son fils parce qu'elle a peur et où lui rentre, prend le bébé, emmène le bébé dans la chambre et commence à crier, à faire du bruit, pour faire hurler le bébé, et donc c'est pour l'embêter à elle, en fait, qui fait ça. Et ça, c'est très marquant dans ce livre, parce qu'on se dit que quand même, comment est-ce qu'on peut en arriver là, et comment est-ce qu'on peut utiliser un enfant pour s'en prendre à une femme.
Merci beaucoup à vous pour l'interview.
Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie voilà, d'avoir pensé à nous.
Du côté de l'agenda, ce soir à 19h30, retrouvez le spectacle de danse Black Light de Mathilde Monnier. Et puis à 20h30, Nage Libre, que vous pourrez, si la chronique de Léo vous a donné envie d'aller le voir, découvrir. Demain, pour le dernier jour du festival, un concert hommage à Joséphine Baker sera donné à 18h30. Et puis, si cela vous tente, de 14h30 à 17h30, il y aura un atelier de broderie créative avec l'étudiante artiste Jeanne Vautier. Si cela vous tente, c'est à la Maison de la Culture, dans le bureau des relations publiques. Est-ce que vous avez un moment que vous avez envie de nous partager de cette semaine, une petite pépite qui vous a marqué, un spectacle que vous avez envie de retenir, une émotion, un moment d'échange?
Bah écoutez, je vais me lancer. Tout d'abord, je vais être honnête avec vous, j'ai pas eu l'habitude d'aller voir beaucoup de pièces de théâtre dans ma vie. Et je vous avoue que j'ai particulièrement été touché par celle de Nage Libre, étant donné aussi que je suis passionné d'histoire. Et notamment l'interview de Sophie Guisset, qui a quand même été... Enfin, en tout cas, j'en ai beaucoup appris.
Et c'est vrai que c'est pas forcément des sujets qu'on a l'habitude d'aborder au quotidien. Mais je trouvais ça aussi intéressant d'explorer. Je veux dire, elle a vraiment parlé de façon naturelle. En tout cas, je veux dire, c'était une bonne rencontre. Puis même, on a pu visiter un petit peu les coulisses, on peut dire ça. Donc, ouais, c'était une bonne expérience.
Merci beaucoup, Léo. Et toi, Colline ?
Moi, j'ai beaucoup aimé le dimanche. Donc, c'est le premier jour qu'on a couvert le festival. C'est pas le premier jour du festival, puisque ça avait commencé le jeudi. Mais c'est le premier jour où nous, on était sur place et où il y avait plein d'associations, il y avait plein de choses. Et c'était vraiment hyper intéressant de rencontrer ces associations. Et c'est pas tout. Je retiens aussi les tables rondes et la conférence gesticulée de Bettina Zurli, qui était vraiment super intéressante. Voilà, enfin, il y avait plein de choses. On n'a pas chômé, hein, parce qu'on a fait quand même beaucoup d'interviews ce jour-là. Et moi, je retiens que c'était vraiment plein de rencontres.
C'était une semaine très, très intense, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, mais c'était aussi très enrichissant. J'ai appris partout, que ce soit du côté de la radio ou du côté des thématiques du festival, des artistes que j'ai pu rencontrer et interviewer, mais aussi le public. Et puis... Le spectacle d'Alénor Dauché m'a vraiment marqué. C'était très intéressant en fait, de se retrouver dans cet espace autour de la notion du toucher et d'avoir un nouveau regard, parce que c'est un spectacle qui traite de la parentalité, comment faire parent. Et j'ai trouvé l'expérience très immersive, mais aussi le fait que les parents puissent venir avec leur bébé, ça nous donne un nouveau regard sur l'espace, puisqu'on apprend plus en regardant ces enfants découvrir l'espace que nous-mêmes en découvrant l'espace. Et puis, la performance, elle nous ramenait aussi à des sensations qu'on a complètement oubliées, à travers notamment différentes boissons qu'on pouvait boire avec des pailles en forme de tétons. Et c'est une sensation qu'on a complètement oubliée. Parce que, mais dans la globalité, c'était vraiment une très belle semaine. J'étais ravi de partager ça avec vous. Et c'est maintenant le temps de se faire plaisir une dernière fois. Donc, c'était... Fréquence Féministe, votre émission quotidienne qui a couvert toute la semaine le festival. Vous aurez tous les replays de chaque épisode de cette semaine sur le site radiocampusamiens.fr et je vous invite vivement à les réécouter parce qu'on a vu plein de belles choses cette semaine. Et on se dit à très vite sur le 87.7 FM.
Depuis la nuit des temps, on parle de Michel-Ange. Tout ce qui est art dans notre civilisation est le fait des hommes et pas des femmes.
Je suis gloutonne comme Colette, souillon comme Marie Curie, collabo comme Anne de Bretagne. Je ne suis pas un homme comme Jeanne d'Arc, mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas les femmes.
Fréquence féministe.
Mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas les femmes?